Voilà, des fois ça m'arrive de tenir mes promesses. Alors, je vous propose ce matin de revenir sur le sujet de vie chrétienne qui nous a occupés pendant le week-end à Gagnères. Notamment sur ce verset de Colossiens où Paul dit que, aux gens qui habitaient dans cette ville de Colosse, que depuis que le jour où il a appris qu'ils étaient devenus chrétiens, ils ne cessent de prier Dieu pour eux et de demander qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, comme je vous l'avais dit déjà, pendant l'été, je me suis documenté sur ce thème de la volonté de Dieu. J'ai écouté des enseignements, j'ai fait des lectures et je voulais vous redonner plusieurs choses. Alors bien sûr, en tant que croyants, nous sommes appelés non seulement à connaître la volonté de Dieu, mais aussi à la pratiquer, à la vivre, à la mettre en œuvre. Et ce verset de Colossiens fait écho aussi à la prière de Jésus, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mi-septembre, on avait déjà commencé à évoquer ce sujet. J'ai l'impression qu'il y a de l'écho, non ? Vous m'entendez ? Ce matin, je vous propose de continuer à voir ensemble des pistes de réflexion et peut-être de réforme de nos vies dans ce domaine. Et donc, sans refaire le message de la fois d'avant, un petit résumé si vous avez donc raté l'épisode précédent. Donc, la plupart des croyants posent des questions du genre « Comment puis-je savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Comment puis-je savoir quelle est sa direction ? Que veut-il que je fasse ?» Et donc, cela nous amène sur le terrain des décisions. Les décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas. Allons-nous décider de mettre en œuvre la volonté de Dieu ou est-ce notre propre volonté que nous appliquons ? Et la prise des décisions fait partie de nos vies et elle est importante. Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent la vie que nous mènerons demain. Les décisions que vous avez prises dans le passé ont déterminé ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous avez décidé de vous marier, de vous divorcer, de prendre tel boulot, de vivre dans telle ville, etc. Et tout cela détermine ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Les bonnes décisions, comme les moins bonnes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne prend pas de décision à notre place. C'est à nous de décider. C'est à nous de choisir. En revanche, Dieu peut nous aider à prendre des bonnes décisions. Il est notre conseiller, il est notre soutien. Et nous avons le choix de décider par nous-mêmes, d'écouter ses conseils, ses avertissements, ses recommandations, sa volonté, ou pas. La dernière fois, nous avons vu aussi qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui pour prendre des décisions, et peut-être plus pour la génération nouvelle, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, que pour les plus âgés. Nous avions beaucoup moins de possibilités. Aujourd'hui, il y a tellement plus d'options. Avec les outils connectés, avec Internet, on a des options illimitées. Vous pouvez voyager dans des endroits où, à notre époque, nous n'avions pas les moyens de voyager. On pouvait voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Au lieu de choisir juste entre quelques restaurants, vous pouvez maintenant vous faire livrer n'importe quoi chez vous. Et il y a tellement d'options que ça rend les choses vraiment très compliquées. Une autre raison qui nous empêche de prendre des décisions, c'est que nous vivons dans l'illusion de la perfection. Il y a une sorte de séduction qui est induite par les outils connectés, et c'est un problème courant. Moi, quand j'ai grandi, je savais que ma famille était imparfaite, je savais que mes amis étaient imparfaits, je savais que ma vie était imparfaite. Bon, et c'était quelque chose que, finalement, on accepte. Hein. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, on voit que des choses parfaites. Vous voyez la photo de la vie d'autres personnes sur Insta ou ailleurs, hein, et cette photo est parfaite, ou elle fait croire que la vie de cette personne est parfaite. Donc vous imaginez la femme très bien mise en valeur, avec de beaux habits bien maquillés. Vous imaginez le couple romantique au bord de la plage avec une magnifique mise en scène. Et puis vous, vous comparez ça avec votre vie et vous dites, y a un problème. Il y a un problème. Et nous en concluons que nos vies sont moches ou horribles parce qu'elles ne sont pas si parfaites. Vous voyez donc ce couple, Miss Machin, dans la pose parfaite, elle est accompagnée de beaux gosses trucs. Ils ont une idée, ils montrent une idée parfaite d'une relation et maintenant ils sont à table avec un repas fabuleux, parfait. Et vous, vous comparez votre assiette et vous vous dites, mais ma vie est juste horrible. Mais c'est faux. Votre vie est peut-être ordinaire, mais elle est valable. Et les photos de ce couple parfait ne sont que des mises en scène. Alors, ça nous influence dans la prise de décision. Et ça influence aussi la vie des disciples de Jésus qui veulent faire la volonté de Dieu d'une manière parfaite. Et je ne veux pas rater la volonté parfaite de Dieu. Si je veux faire la volonté de Dieu, je veux la faire de manière parfaite. Du coup, je ne fais rien. Certains se disent, je servirai Dieu, l'Église, le monde, quand j'aurai réglé tous mes problèmes actuels de ma vie. Quand j'aurai éliminé tous mes travers, tous mes péchés récurrents. C'est ça, tu attends d'être parfait. Je me marierai lorsque j'aurai trouvé la femme parfaite ou le mari parfait. Tu risques d'attendre longtemps. Certains ne travaillent pas car le travail qu'on leur propose n'est pas... Il y a des détails qui ne sont vraiment pas parfaits. Mais en attendant, tu vis sous perfusion. Voilà, et ça se décline dans beaucoup de domaines de notre vie. Il y a cette illusion de la perfection dans les réseaux sociaux qui nous influence jour après jour. Et donc, il y a une génération qui a peur de prendre des décisions imparfaites. Et au lieu de prendre des décisions imparfaites, ils ne prennent pas de décision du tout. Et c'est bien pire. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui, elles déterminent ta vie de demain. Alors, je voudrais parler aujourd'hui de deux clés qui nous aident à grandir dans la prise de décision. Comment grandir dans ce domaine qui devient de plus en plus difficile ? Où dois-je aller à l'université ? Dois-je sortir avec cette personne ? Devrions-nous nous marier ? Devrions-nous avoir un autre enfant ? Devrions-nous acheter cette voiture, cette maison, au lieu de la louer ? Est-ce que je devrais avoir une autre voiture ? Devrais-je prendre ce travail ? Est-ce que je dois accepter ce travail où on me propose 1 000 euros de plus par mois ? Comment savons-nous ce que Dieu veut que nous fassions ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes un disciple de Jésus, Dieu vous montrera exactement tout ce que vous devez faire. Il n'y aura aucun doute dans votre esprit. Vous serez sûr à 100%. Il n'y aura jamais de problème ou d'obstacle. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? Vous avez raison, parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais c'est ce que beaucoup de gens pensent ou imaginent, même parmi nous. La plupart pensent que si je suis un disciple de Jésus, il va me montrer exactement ce que je dois faire. Il doit me dire exactement tout ce que je dois vivre à chaque instant de ma vie. Alors je me rappelle une discussion il y a quelques années avec une personne très spirituelle qui disait qu'elle demandait à Dieu tous les matins comment elle devait s'habiller. Est-ce que je mets les chaussettes rouges ou est-ce que je mets les chaussettes bleues ? C'est véridique. Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à la couleur de tes chaussettes ? Est-ce qu'il ne t'a pas donné un sens critique, le sens de l'harmonie des couleurs ? Est-ce que tu n'as pas de quoi choisir par toi-même ? Alors, il y a un passage des Écritures qui est assez fascinant dans ce domaine. C'est l'apôtre Paul. Alors, lui, c'est un cador quand même. On pourrait dire que c'est presque le disciple idéal. Si quelqu'un a compris la volonté de Dieu, c'est quand même lui. Vous êtes d'accord ? Cet homme, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a eu des rencontres et des révélations avec Dieu très remarquables. Il a fait des croyants et commencé des églises un peu partout autour du bassin méditerranéen. Et donc, si quelqu'un sait écouter la volonté de Dieu, c'est bien l'apôtre Paul. Alors, je vous propose de lire 1 Corinthiens 16, les versets 6. Et je vous invite à regarder dans ces versets à quel point Paul avait compris ce qui va arriver dans le futur. 1 viendrai chez vous en passant par la Macédoine, car je vais traverser cette province. Je resterai peut-être un certain temps chez vous, peut-être même pendant tout l'hiver. Alors vous me donnerez les moyens de continuer ma route où que j'aille. Je ne veux pas vous voir seulement en passant. J'espère rester chez vous un certain temps, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Là, j'aurai l'occasion de pouvoir faire un grand travail. Pourtant, il y a beaucoup d'opposition. Donc, il dit qu'il passera chez eux quelque temps. Il ne dit pas « je passerai 3 semaines chez vous ». Non, quelque temps. Ça reste incertain. Il ne le sait pas à l'avance. Il y passera peut-être l'hiver, mais ce n'est pas sûr. Pour le moment, il reste à Éphèse. Il n'a pas du tout la moindre idée de la suite. Il dit « vous m'aiderez à financer mon voyage où que j'aille » parce qu'il n'a pas du tout, il n'a pas la moindre idée de la suite. Il reste à Éphèse, il y a un grand travail à faire, mais il y a beaucoup d'opposition, c'est-à-dire des difficultés. Paul n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Il ne comprenait pas les détails, et pourtant, il servait Dieu et d'une manière efficace. Alors, si vous vous sentez un peu comme Paul, rassurez-vous, Dieu ne nous montre pas l'avenir. Dieu ne nous montre pas les détails. Pas à pas, étape par étape, nous avançons dans la vie. Alors beaucoup d'entre nous, concernant la volonté de Dieu, nous aimerions tout savoir à l'avance. Ça nous rassurerait. La question que beaucoup se posent, c'est « qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Dis-moi ce que tu veux que je fasse, Seigneur, et je le ferai. » La dernière fois, nous avions vu 2 idées clés dans ce domaine. D'abord, c'est que Dieu est davantage intéressé par qui tu es, plutôt par ce que tu fais. Et ensuite, nous avions vu que il est davantage concerné par nos motivations que par nos actions. Alors aujourd'hui, peut-être tu te demandes, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Montre-moi quoi faire. Et si tu me montres quoi faire, je le ferai. Mais voici une autre idée que je voudrais développer ce matin. Dieu ne va pas te dire quoi faire. Il ne va pas te dire l'avenir. Mais il va te donner la sagesse pour décider. Dieu ne nous montre pas toujours spécifiquement quoi faire, mais par contre, il nous donne la sagesse pour décider. Dieu nous promet de donner la sagesse de décider, pour discerner, pour prendre nos décisions. Et ce n'est pas lui qui va décider à notre place, c'est à nous de décider pour nos vies. La sagesse est un des éléments les plus importants que nous pouvons recevoir de notre Père Céleste. Alors quand on parle de sagesse, on pense tout de suite à Salomon dans l'Ancien Testament. Alors petite mise au point rapide si vous n'êtes pas familier de Salomon. Salomon, il est devenu roi d'Israël. Et selon la loi de Moïse, au moment où il est devenu roi, il devait sacrifier un taureau. Il devait faire un sacrifice. Mais lui, il a sacrifié 1000 taureaux. Vous imaginez le carnage ? 1000. Donc, c'était un acte extravagant d'adoration envers Dieu. Et dans un rêve, Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » C'est étonnant, n'est-ce pas ? Un geste extravagant de générosité a eu une répercussion sur le cœur de Dieu. Et Dieu lui dit « Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. »
Waouh !
Et Salomon, il ne demande pas la richesse, il ne demande pas la gloire, il ne demande pas la paix pour son pays. Non, il demande quelque chose de très précis à Dieu. Donne-moi la sagesse pour mon travail de roi, pour diriger, pour prendre les décisions qui vont t'honorer. Et Dieu lui a répondu, oui, tu as bien répondu, je vais te donner la sagesse. Mais ce n'est pas tout, je vais aussi te donner toutes les autres choses, par-dessus tout. mais je vais te donner la sagesse. Alors, personne ce matin parmi nous est roi ou reine, à ma connaissance, mais tu as tout autant besoin de sagesse que Salomon pour décider dans ton travail, dans ta famille, dans tes choix, tes responsabilités, ton engagement dans la société que tu diriges ou là où tu travailles, dans l'association dans laquelle tu es engagé. Et comme Salomon, tu as besoin de sagesse. Alors Salomon, il a écrit après à ses fils, dans les Proverbes, et puis il dit quelque chose de très simple. Le commencement de la sagesse, le commencement de la sagesse, dans Proverbes 4-7, c'est de faire tout pour devenir sage. Le commencement de la sagesse, c'est de faire tout pour devenir sage. C'était Salomon la Palisse. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Prends la sagesse dans tes bras, elle te rendra grand. Elle te mettra à l'honneur si tu l'embrasses. Elle sera pour toi comme un beau bijou, comme une couronne magnifique. Donc Salomon, il dit quelque chose de très direct. Obtenir la sagesse est la chose la plus sage que tu puisses faire. Deviens intelligent, développe un bon jugement, un bon discernement. Alors, bien sûr, on pourrait dire ça à Dieu, hein, mais j'aimerais savoir, Dieu, aide-moi. J'aimerais connaître la volonté pour ma vie. Et donc, demandons la sagesse à Dieu. Dieu ne nous montrera pas quoi faire, mais il nous donnera la sagesse de décider. Alors Salomon, il continue avec des idées très simples, qui sont faciles à retenir, et cela nous aide à grandir dans la direction vers la sagesse. La première chose, c'est ceci, c'est juste des mots simples. C'est dans Proverbes 13-20. Celui qui marche avec les sages devient sage, et celui qui fréquente les gens stupides s'en trouve mal. La première chose, c'est que nous devons être en marche, nous devons marcher, avancer, ne pas rester figés. Et marcher avec qui ? Avec les sages. Alors, tu deviendras sage. Et si tu continues à fréquenter des gens stupides, ben, tu deviendras comme eux. Nous devenons qui nous fréquentons. Alors il y a un autre aspect qui devient réalité, c'est que lorsqu'on pose des questions à Dieu, souvent on imagine qu'il va nous répondre directement à nous, intérieurement. Mais il y a de fortes chances que Dieu utilise une personne ou un groupe de personnes pour te répondre. Si tu fréquentes les sages, ceux qui ont reçu la sagesse de Dieu, tu as de bonnes occasions que Dieu te réponde au travers de ces personnes. Et tu peux même aller voir une personne sage et lui poser tes questions. Je me pose telle question sur tel domaine, sur tel choix dans ma vie. Qu'est-ce que tu en penses ? Une idée assez fausse répandue chez les croyants, c'est que Dieu va nous répondre directement. Non, Dieu nous parle par des moyens qui sont extérieurs à nos vies. Par sa parole, par les frères et sœurs, surtout par ceux qui sont sages. Parfois aussi, Dieu nous parle par une parole prophétique. Et vous savez qu'elle doit être en accord avec la Bible et en accord aussi avec notre entourage. Mais les paroles prophétiques, elles ne sont pas là pour diriger nos vies. Elles sont là pour édifier, encourager, consoler. Elles ne sont pas là pour diriger. Ça ne suffit pas. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons des groupes de maison. Ce n'est pas simplement pour développer de relations fraternelles, c'est important, mais c'est aussi pour que nous puissions rencontrer d'autres croyants, car nous en avons besoin. Vous imaginez bien qu'aller à l'église 1h30 par semaine le dimanche et avoir un petit plan de lecture biblique le matin, c'est pas suffisant pour surmonter l'attraction du monde, de toutes ces choses qui déplaisent à Dieu et dans lesquelles nous sommes en contact quotidiennement. Nous sommes dans notre environnement de travail, au collège, au lycée. Nous sommes dans tant de vanités, tant de péchés. Et combien c'est important de pouvoir rencontrer des personnes qui ont reçu la sagesse de Dieu, des personnes qui vivent avec Dieu. Si tu marches avec les sages, tu deviendras sage. Si vous voyez une personne qui a une réussite dans sa vie, un domaine où il a réussi, je vous promets qu'il a marché avec les sages. Par exemple, quelqu'un qui cherche Dieu et qui fréquente des disciples de Jésus, il y a de fortes chances qu'il devienne disciple de Jésus. C'est comme ça que ça marche. Moi, ça a été mon cas. Je ne suis pas devenu disciple de Jésus en tombant de l'arbre un jour. Non. C'est parce que j'ai rencontré des disciples de Jésus et qu'ils m'ont transmis leur sagesse spirituelle petit à petit, semaine après semaine, année après année. Et un jour, j'ai décidé de confier ma vie à Jésus. Alors, si vous voulez prendre des décisions meilleures, passez du temps, traînez avec des personnes sages. C'est vraiment important. Et c'est tellement biblique. Vous voulez recevoir la direction de Dieu ? Eh bien, traînez avec le peuple de Dieu. Passez du temps avec des personnes qui sont plus avancées dans la foi. Ça ne veut pas dire que vous délaissez totalement vos fréquentations parmi les non-croyants. Non, bien sûr, c'est important de conserver vos amis et vos relations. Mais passez un petit peu plus de temps avec ceux qui marchent avec Jésus. Vous marchez avec les sages et vous deviendrez sages. Alors, une deuxième chose que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons demander. Vous voulez de la sagesse ? Il y a une promesse et une prière auxquelles Dieu répondra toujours. Chaque fois que vous demanderez à Dieu la sagesse, il entendra votre prière et dira « Oui, je te la donne ». Alors par exemple, c'est Jacques qui l'a écrit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ben, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Dieu donne généreusement. Alors on peut se demander pourquoi. Vous savez, grâce à ce que Jésus a accompli pour nous, Jésus est devenu sagesse pour nous. Et cette sagesse, Dieu la répand, il la donne. Moi, j'aime ce détail. Dieu qui donne sans faire de reproche. Dieu ne te reprochera jamais de manquer de sagesse, ni de lui demander, parce que c'est un père aimant. Quand vous demandez à Dieu, il aime partager la sagesse avec ses enfants. Quand vous lui demandez. Et la recette, c'est de passer du temps avec lui pour lui demander. Quand avez-vous besoin de sagesse ? Vous pouvez l'obtenir chaque jour, au travers de sa parole. Vous pouvez l'obtenir chaque jour en partageant avec d'autres croyants. Vous pouvez l'obtenir chaque jour en écoutant la voix de son esprit. Il est le bon berger qui guide ses brebis. Et ça, c'est un autre point. Il guide. Cela signifie que notre travail, c'est de le suivre. Nous marchons avec lui. Il nous conduit là où il veut que nous allions. C'est pour ça que c'est important de passer du temps avec lui. En passant du temps avec lui, il nous donne la sagesse. Alors Dieu se présente à nous comme un guide. Il va nous guider, nous conseiller, nous faire des recommandations ou des alertes. Mais certains chrétiens attendent que Dieu les téléguide. Ils ne veulent pas être guidés, ils veulent être téléguidés. Vous savez, comme un jouet, la téléguidée. La différence est importante, car Dieu nous a créés à son image, avec la capacité de décider, de réfléchir, de choisir. Et c'est à nous que revient de décider. Ce n'est pas lui qui décide pour nous. Alors je vous propose une image. Imaginez un papa ou une maman qui veut apprendre à son enfant à faire du vélo. Donc l'enfant est assis sur la selle, c'est lui qui tient le guidon, papa ou maman tient aussi un peu, Mais c'est l'enfant qui pédale, c'est lui qui avance, c'est lui qui tourne, et puis il se lance, et puis papa ou maman, il reste derrière, hein, ou alors il court sur le côté. Hein. Mais c'est l'enfant qui tient le guidon, et papa et maman le guident, le conseillent. Va à gauche, va tout droit, ne regarde pas ta roue, regarde devant, pédale moins vite, pédale plus vite, reste sur la route, attention le buisson. L'enfant est guidé, mais il n'est pas téléguidé. C'est lui qui décide en tenant le guidon, en pédalant. Il apprend, peut-être qu'il va tomber plusieurs fois, mais il va prendre confiance. Il va s'approprier le vélo. Et une fois qu'il y sera arrivé, c'est pour toute la vie, car le vélo, ça ne s'oublie pas. Dieu veut nous guider et pas nous téléguider. Marche avec les sages, demandez, il vous donnera la sagesse. Et la troisième chose, c'est très simplement cela. Décidez, prenez des décisions, avancez, faites des choix. Comme l'enfant sur son vélo, pédalez, tenez le guidon, avancez. La plus grande erreur en vélo, c'est d'arrêter de pédaler, parce qu'il n'y a plus de vitesse et on tombe. La plus grande erreur, c'est de ne pas décider, d'attendre. Les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent la vie que nous aurons demain. Alors bien sûr, la question demeure. J'ai une opportunité, comment savoir si c'est de Dieu ? Est-ce une occasion donnée par Dieu ou est-ce que c'est un piège ? Est-ce que ce désir, c'est mon désir ou c'est le désir de Dieu ? Alors, vous le savez, les Écritures, elles donnent des indications claires sur des sujets précis. Et quand il y a quelque chose que la Bible indique de ne pas faire, eh bien voilà, nous ne le faisons pas, nous obéissons. Mais il y a des centaines de domaines de notre vie où la Bible ne dit rien, et c'est à nous de prendre des décisions. Alors que faire ? Nous pouvons demander la sagesse, et Dieu nous donnera la sagesse pour décider. Alors Dieu aurait pu très bien nous programmer pour faire exactement ce qu'il voulait que nous fassions. Et nous n'aurions absolument plus la liberté de choisir de l'aimer en retour. Mais il nous aime suffisamment pour nous donner la liberté de faire des choix. Dieu dit, c'est toi qui décides. Je te fais confiance. Et si tu en as besoin, demande-moi de l'aide. Et que se passe-t-il si on fait une erreur ? Ben, demande de l'aide. Ça arrive. Mais Dieu reste ton Père céleste qui te guide. Tu vas apprendre de ton erreur, tu vas pouvoir mûrir, tu vas pouvoir demander la sagesse et tu vas la recevoir pour prendre une nouvelle décision. Alors je crois que nous pouvons remercier Jésus qui est notre guide. Il est aussi celui qui veille sur nos vies. Il n'y a aucun moyen de prévoir ce qui va se passer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être fidèle étape après étape. Alors, pas besoin de paniquer. Apprenons à connaître Jésus. Apprenons à reconnaître sa voix, à marcher avec lui. Marchons avec les sages pour devenir sages. Entourons-nous de gens qui plaisent à Jésus et qui pourront nous transmettre. Demandons à Dieu la sagesse. Il donne généreusement à tous. Prends des décisions, mets-toi en marche. Et que se passe-t-il si je me trompe ? Ben Dieu te guide, il te dira peut-être reviens par ici. Dieu te conseille, Dieu veille sur toi. Alors je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous désirons connaître pleinement ta volonté, comme écrit Paul. Et nous demandons que nous soyons remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Notre Père, aide-nous à devenir qui tu désires que nous soyons, plutôt que de nous préoccuper de ce que nous faisons. Merci Jésus d'être le bon berger qui guide les brebis. Partout où tu me guides, je te suivrai pas à pas. Notre Père, nous demandons en ce moment que tu nous aides. Donne-nous la sagesse. Il y a tellement de décisions à prendre, petites ou grandes. Notre Dieu, quand ta parole est claire, nous obéirons avec ton aide. Donne-nous aussi la sagesse de décider, pour toutes les décisions du quotidien. Donne-nous le courage de prendre des décisions, car nous marchons avec toi. Nous sommes habités par ton esprit. Donne-nous le courage de décider et la foi de te faire confiance, car tu nous guides et tu veilles sur nous. Donne-nous la sagesse pour être qui tu veux que nous soyons, et nous ferons ce que tu nous appelles à faire. Donne-nous la sagesse pour avoir des motivations justes et bonnes. Ta volonté, c'est que nous soyons saints, ressemblant à Jésus. Et nous savons que nous avons besoin de ta grâce, de ton pardon dans nos vies, dans certains domaines de nos vies. Car nous ne suivons pas toujours tes directives ni tes conseils, et nous sommes souvent attirés et séduits. Peut-être certains d'entre nous, ce matin, voudraient donner complètement leur vie à Jésus. Peut-être d'autres voudraient prendre un nouveau départ. C'est le moment de dire « Oui, Jésus, je te donne complètement ma vie. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta grâce. Je t'appelle dans ma vie, je te demande de me sauver. » Amen.